France Culture.
Ouais, on est là. Ouais, on va faire un petit a cappella là.
Tranquille.
Ouais. Dans le rap game, aïe, devant les hommes, mon sac à gouler, ou ça ouronné, dans la vie, fais gaffe qu'on en est, fanier la monnaie, ça au calme, le bako du tchix, ça a nan caisse, ma pessa dans le caisse, si ma pessa dans le caisse, allo bako dé élevé, assuré, ce bail bien vite fait, ça mon ali fait, n'a des faits, tirer les côtés, c'est déjà fait, on nous toujours, ça parfait, quand vous plan bam bam combe ma petite qu'il y a sur soulé, hey, fin de mon coup poulet.
Et ça dit quoi?
Ça parle des anciens qui sont tombés à terre en fait. Les nouvelles générations ont pris les territoires.
Les anciens sont tombés à terre, qu'est-ce que ça veut dire?
Ils sont coulés en fait.
Ils sont plus d'actualité.
Ouais.
Et les petits prennent les rênes, c'est juste ça.
Mayotte, dernier des départements. Deuxième épisode, une jeunesse abandonnée. Un documentaire de Raphaël Kraft et David Jakubowiez. Abou Chiabi.
Oui.
Vous êtes musicien comorien? Et la dernière fois qu'on est venu vous voir, vous nous avez parlé d'un événement un peu traumatique pour vous, à propos d'une agression que vous avez subie récemment dans le climat que vit l'île en ce moment.
Oui, ben c'était pas la première fois, c'est presque la troisième fois. J'étais parti jouer dans un restaurant à Combani, et au retour, il y avait une vingtaine de jeunes quoi, avec des manchettes, des barres de fer, ils me barrent la route. Je suis sorti de la voiture, ils m'ont poussé un peu. J'ai dit écoutez, qu'est-ce que vous voulez? On va déçu, ils commencent à me fouiller. J'ai dit écoute, moi j'ai rien, je viens de jouer, je suis musicien, je suis pauvre comme vous, je viens de jouer quelque part pour avoir un peu de thune, et ils ne m'ont même pas encore payé, alors je ne comprends pas. Puis d'un coup il y avait deux voitures blanches qui venaient en face comme ça. Et puis, leur chef, il a dit, enlevez les barrages. Ils ont tous couru pour aller rattraper les autres voitures qui faisaient marche arrière. Alors moi, ce que j'ai fait, je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré, et je me suis barré. Et depuis, j'ai plus fait des concerts parce que ça m'a traumatisé quoi, quand même, parce que... tu vas pour t'amuser, jouer, et quand tu rentres chez toi, tu te fais agresser comme ça. C'est dommage, quoi, parce que il y avait des bonnes vibrations. Musicalement, tout le monde progressait, quoi, parce que tout le monde jouait. Mais maintenant, c'est fini, quoi. Les gens, ils ont peur de sortir, d'aller jouer. C'est dommage, quoi, d'en arriver là, quoi.
Qu'est-ce que vous comprenez de cette situation?
Eh ben, ces jeunes-là, ils ont le ras-le-bol.
Ras-le-bol de quoi?
Eh ben, je pense que les enfants ont ras-le-bol de l'injustice qu'il y a. Ils sont pas considérés. Ils se sentent rejetés, quoi. Donc, ils font leur loi. Ils se sentent...
discriminés.
T'as trouvé vraiment le mot. Même s'ils vont réclamer justice, mais qui... On va toujours les considérer comme des délinquants, quoi.
Il y a une expression en chibouchi ou en chimaoré, je ne sais pas, qui dit ras-le-bol.
C'est magialimbi mtsang, ça veut dire le ras-le-bol, quoi. Ça veut dire l'eau a débordé le sable, ça veut dire les gens en ont ras-le-bol. D'ailleurs, j'ai une chanson qui parle de ça, c'était ça. Attends.
Hale, 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 si wagati wa ukoloni.
Aïbo, Rika ouro moi, Juma ouro moi, Magiali Minza, Nariele Wanepa, Magiali Minzanga. Wewe.
Mayotte est le département le plus jeune de France, avec la moitié de sa population âgée de moins de 18 ans. L'âge médian, si je ne dis pas de bêtises, est de 23 ans.
Alison Morano.
On est la première maternité de France, avec environ 10 000 naissances chaque année.
Anthropologue à Mayotte.
La plupart sont nés de mères comoriennes, mais un enfant sur deux qui naît à Mayotte a un des deux parents français. On est sur une jeunesse qui vit majoritairement sous le seuil de pauvreté.
C'est une jeunesse qui est extrêmement contrainte, pour ne pas dire violentée.
Oui, il y a plusieurs formes de violence qu'on pourrait identifier à Mayotte. La violence des inégalités, la violence de l'exclusion, la violence administrative, la violence scolaire, les violences d'altérité aussi, puisqu'on connaît ces rapports un peu conflictuels. Donc oui, une contrainte par la violence, oui.
Il y a cette facilité par les pouvoirs publics, l'État, les hommes et femmes politiques locaux à imputer cette violence aux étrangers. Et quand on regarde un petit peu de plus près, on constate qu'elle est diffuse.
Tout à fait. Il y a un vrai amalgame entre violence, insécurité, immigration et donc population étrangère. Dans les faits, ça ne se vérifie pas nécessairement, surtout parmi les mineurs. La plupart des mineurs pris en charge par la justice sont nés à Mayotte. On est sur une violence qui naît beaucoup de ce sentiment d'exclusion, de cette violence aussi qui peut venir de l'isolement social, scolaire, de cette violence administrative, de ce sentiment d'appartenance un peu déchirée entre plusieurs identités administratives, sociales et culturelles. On est sur une jeunesse qui a la haine, enfin, très sincèrement, moi dans mes recherches c'est ressorti beaucoup. Ils ont la haine, ils se sentent délaissés, ils se sentent pas regardés, pas occupés par l'État. Et il y a cette colère, qui se manifeste sous des formes évidemment inacceptables, mais c'est comme ça qu'elle prend forme et qu'elle se manifeste chaque jour.
Bonjour, je m'appelle Merguez, je suis de Ouangani.
Bonjour, c'est Kalachnikov, j'habite à Ouangani.
Moi, bonjour, je m'appelle Sans Âme et je suis de Ouangani.
Vous rappez, vous, Sans Âme?
Oui, nous tous on rappe, mais après, notre rap c'est un rap agressif. Un rap violent, machette, tout ça, ouais. Les raps de chants de guerre. Pour nous, on peut dire que c'est un jeu, mais c'est pas un jeu. Ça, vous voyez le triangle qui est là? Ce triangle-là, ça c'est un couteau, ma poignarde avec un couteau.
La ligne droite là qui est là.
Qu'est-ce qu'il y a?
Les champs de guerre, c'est juste là, la ligne droite qui est là.
À l'entrée de Ouangani.
C'est juste là, la route nationale, la grande route qui passe là-bas. Ça c'est.
Si après, nous on a envie de se battre, ouais. Bah, on les appelle de monter. Si eux ils ont envie, eux appellent. Et on
dit ah, ça. Vous vous donnez rendez-vous?
Ouais, c'est un rendez-vous, ouais.
Et vous, Kalachnikov, vous avez 16 ans, c'est ça?
Oui, 16 ans.
Vous allez toujours à l'école?
Oui.
Vous êtes en quelle classe?
Là, c'est en seconde générale, au lycée de Kahani.
Et la particularité du lycée de Kahani, c'est que, comme il y a des spécialités qu'on ne trouve pas ailleurs, il y a des jeunes qui viennent de villages très différents. Ouais. Et comme vous faites la guerre entre villages...
Ouais. Après, c'est normal, c'est les Ouattaro et les Téro.
Donc vous, vos ennemis principaux, c'est Barakani, c'est le village d'à côté?
Oui, parce que, exemple, bah, nous, Ouangani, on se bat contre Barakani.
Ouais.
Et Shkoni bat contre Shada comme ça. Parce que le Shkoni, c'est des Colombiens et Shada, c'est des Mexicains.
Ouais. Oui, ça, c'est... Et après, à Ouangani, nous, c'est les Algériens.
Vous êtes des Algériens, vous?
Oui.
Mais vous êtes en train de vous moquer de moi ou vous êtes
non,
sérieux?
Non, c'est vrai, bonjour.
C'est vrai.
Monsieur. Nous, notre drapeau, c'est l'Algérie.
Vous voyez pas, monsieur?
Parce que tous les clips que tu verras, il y a des drapeaux.
Algérie.
Tous les clips maoris que tu verras, il y a des drapeaux.
Ah bon?
Oui. Tout Mexique, c'est Sada, Brésil, c'est Kaweni.
Palestine.
Ouais, Palestine.
Tungu.
Politicien, Watson, Venzato, Warlezi. Voici Karsnachoa, Nazizo, Wassi Kutizachur, Tarlewe. Achilla, Zimori, Parene, Kazangina, Kartos, Para. Voici les As, Babouya, Vot, Napapi, Manakes, Natama, Nakarsna, Nafas, Nazizo. Voici Tapia, Desmaïcha.
Watsarmenia, Jeunesse.
Ça parle de quoi?
Ça parle de tout ce qui se passe à Mayotte.
Ça porte de la violence et ça porte des politiciens.
J'ai entendu papier aussi dans la chanson.
Vous voyez que eux là, ils veulent que on leur vote après demain qu'on en veut des papiers. Vous voyez. On peut attendre pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, il n'y a même pas de papier qui est venu.
Quand vous parlez de papier, ça veut dire que, par exemple, vous n'avez pas de papier.
Moi, j'en ai. Mais après, c'est mes...
C'est nos frères.
Ce que vous voulez dire, c'est que...
On est comme une famille.
Que ce soit un Comorien, un Malgache ou un Anjouanais.
C'est comme ça. Nous, ici, on n'est pas des racistes. Mais c'est nos adultes, c'est nos anciennes. Ils disent qu'ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça. Vous voyez. Comme à Wangani, ici, c'est comme ça. C'est comme des racistes, vous voyez. C'est pour ça que même moi, je suis maori, moi, j'ai rien à foutre de ce que là. Parce que les papiers, ça va se finir, vous voyez. Nous tous, on va mourir.
Lui, il est d'Anjouanais. Ben, moi, je suis avec lui. C'est mon frère direct. Ouais,
Vous êtes Anjouanais, vous-même?
Oui, mais... Comment dire, c'est ma mère et mon père qui vivent là-bas. Mm-hmm. Mais moi, je suis né à Mayotte, du coup, je me considère comme l'un des leurs.
Quel est votre prénom?
Moi, je m'appelle Zaidou.
Et vous avez quel âge?
J'ai 16 ans.
Et maintenant, vous avez réussi à obtenir vos papiers ou pas?
Non, pas encore.
Donc ça veut dire que dans 2 ans, si jamais vous n'obtenez pas vos papiers, vous allez être dans une situation difficile.
Ouais, c'est ça. Vous savez, comme les gens qui traînent dehors, là, en train de galérer comme des chômeurs. Alors, il faut que ça s'arrête, car ce n'est pas normal.
Je vois que vous avez un casque de chantier. Quel est votre métier?
Non, là, j'étais en stage à Barakane, on faisait de la maçonnerie là-bas.
Ah, vous êtes en CAP maçonnerie?
Non, en bac pro.
En bac pro maçonnerie?
Ouais. Okay.
Et c'est pas trop dangereux pour quelqu'un de Wangani d'aller à Barakani?
Si, mais je prends le risque. Je prends le risque. C'est juste que à Mayotte, c'est comme ça. Car les guerres là, c'est pas normal. Quelqu'un qui est de Magicavo, qui aimerait peut-être aller à Kaweni, n'osera pas, car on va lui tabasser. Du coup, on veut que ça s'arrête.
Et la police dans tout ça? Est-ce qu'il arrive qu'ils viennent ici pour arrêter des amis à vous qui sont clandestins pour les mettre au centre de rétention et les renvoyer à Anjouan?
Oui, j'en ai vu beaucoup.
Combien un jour on était au plateau là-bas et ils sont venus et ils ont pris notre ami. Y a des gens qui ont caillassé et tout. Parce que c'est notre sens et on peut pas laisser notre frère y aller.
Vous vous sentez comorien, maorais, français, vous vous sentez quoi?
Les deux. Parce que moi, ma mère est d'Anjouan et mon père est de Mayotte.
On est mélangé. On est entre les deux.
Et moi, je suis mélangé. Ma mère est anjouanaise, mon père maoré.
Qu'est-ce qui manque ici à la jeunesse mahoraise?
Le travail et le papier, le développement. Car si on a besoin de logement, car la plupart, on dort dehors.
Vous dormez dans un bidonville vous-même?
Oui. Là-bas, c'est rempli de tôles. Mais comme mon camarade a dit, on se débrouille. On se débrouille pour survivre.
En fait, lorsque l'on naît à Mayotte, on n'a pas les mêmes droits que lorsque l'on naît sur un autre département français. Et lorsque l'on naît à Mayotte, on n'est pas systématiquement français à l'âge de 13 ans. On doit justifier la régularité du séjour des parents, ce qui est un amendement constitutionnel sans précédent en réalité. Donc on a cette inégalité administrative, juridique, qui place les enfants dans cette insécurité-là, de se dire « je nais à Mayotte, je fais toute ma vie à Mayotte, je suis scolarisée, je n'ai rien connu d'autre dans ma vie à Mayotte, et à 18 ans, je dois demander un titre de séjour, je dois justifier d'une nationalité comorienne parce que je ne suis pas français. » Et en fait, ça vient troubler tout ce sentiment-là, toute cette construction qui se sont faites dans leur enfance, de se dire « j'appartiens au territoire de Mayotte, j'appartiens à la France, je me sens appartenir à cette identité-là », même s'ils ne renient pas leurs origines comoriennes, bien évidemment, mais ils ne comprennent pas comment ils ne peuvent pas avoir les mêmes droits que leurs camarades dans un autre département français. Donc, dans une même classe, dans une même fratrie, souvent. On a des Français, on a des étrangers, on en a qui ont un titre de séjour, d'autres qui sont restés aux Comores. On a tout un tas de statuts différents et qui vient compliquer aussi, je pense, ces constructions identitaires, en tout cas.
Moi, autant savoir, on m'a refusé ma nationalité quand je l'avais déposée. Alors que je suis né à Mayotte, j'ai fait des études ici.
Saïd Nidouam, 21 ans.
Et j'ai déposé, et ça m'a fait au moins 2 ans qu'on m'a répondu, 2 ans, 3 ans. Et la dame, il a regardé mon dossier 2-3 fois. Il m'a dit, c'est bien ton dossier. Et au 4e fois, la dame me dit, il y a un souci. Ta mère n'a pas au moins 5 titres de séjour. Du coup, il m'a donné un refuge. Je l'explique, madame, je suis en train de faire mon bac. J'ai fait mes exercices à la Marine nationale. Je dois m'inscruter chez eux. Et la dame me dit, bah, monsieur, vous vous démerdez. Il me lâche ça comme ça. Et moi, je sors au bureau en pleurant. Je me dis, bah, OK, j'ai pas de vie ici. Sans ça, je peux pas aller loin, quoi. Je peux pas récupérer mes diplômes, c'est ça aussi. Et c'est là que j'ai abandonné. Et là, le seul moyen que j'ai eu, bah, ces jours-là, je me suis fait choper par la police frontière. Et ce qui m'est arrivé, c'était hilarant parce que je voulais pas partir. Du coup, ma mère connaissait une avocate qui est passée directement au CRA, au centre de rétention. Oui. Et là, je dis aux assistants sociaux là-bas, je dis, comment ça, je vais quitter le territoire français alors que je suis né ici. Je connais personne au Congo. Et après, bah, ils m'ont dit, bah, on n'a pas le choix, tout ça. Ils disent, il y a toujours un choix. Parce que tu dois signer pour partir au bateau. Et je n'ai pas signé parce que ma mère m'a dit, surtout, tu ne signes pas, sinon tu vas y aller directement. Et j'ai pas signé, j'insiste de ne pas y aller. Et il y avait le flic à côté aussi qui insiste sur moi. Et bien sûr, il a signé à ma place. Et un truc qui est pas légal, de signer une signature de quelqu'un à ta place. Et je lui dis, vous savez que je peux porter plainte sur ça. Et ça partit en couille. Et, il criait sur moi et moi je criais sur lui, à défendre mes droits. Et lui se disait, ici, c'est nous qu'on fait la loi. Et moi, j'insiste. Et lui, il essaie de me lancer des coups de poing. J'évite les coups de poing. Et je suis quelqu'un que je me défends. Ses collègues viennent, je leur explique à côté. Ils disent, ce que tu as fait, c'est pas bien. Il a le droit d'aller porter plainte. Et il y a mon avocat qui vient directement. Qui me dit, bah, à 18h, on se voit au tribunal. Et même le juge, il était choqué. Après qu'il a vu mon dossier. Il dit, comment ça se fait que tu n'as pas ta nationalité? Et là, il dit, monsieur, c'est moi qui dois vous poser ces questions. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ma nationalité. Et lui, il vient d'arriver, il ne savait pas que la loi, elle est mise comme ça à Mayotte, quoi. C'est juste à Mayotte, cette loi. Et il m'a dit, bah, t'es libre, et t'as une semaine, si la préfecture ne t'appelle pas pour te donner un titre de séjour, ils ont une amende. Et j'avoue, titre de séjour, ce n'est pas le truc le plus cool à avoir, mais au moins, ça m'aide de ne pas devenir comme les autres sur la route qu'ils n'ont rien à faire, quoi. Je veux dire, au moins, je vais travailler et je peux récupérer mes diplômes. Et c'est là que j'ai poursuivi mes études.
L'autre jour, dans votre village, il y avait du débat que j'ai pu enregistrer. Et vous participez à un groupe de débat vous-même?
Oui, oui, exactement. Je pratique le débat dans Madrasatia Media de Soa Kavani.
Madima Rimaïza, lycéenne, 17 ans.
Et le débat, c'est une danse traditionnelle composée de femmes en particulier. Il y en a qui sont debout et qui font des gestes, des pas. Il y a une chanteuse. Il y en a qui sont assis et qui tapent des instruments qu'on appelle des taris ici. Et voilà, c'est un moment de partage où on s'amuse. J'ai pas de mots exacts pour décrire ce que je ressens quand je pratique le débat, mais c'est vraiment une sensation incroyable, vraiment. Quand on me dit « viens, on va aux répétitions de débat », moi, ça me fait énormément plaisir.
Votre maman, vos sœurs font partie du groupe aussi?
Si, ça a commencé depuis ma grand-mère, genre la mère de ma mère. Du coup, il y a eu elle, puis bah, elle a amené ma mère, et puis ma mère nous a amenés. En fait, c'est de génération en génération. Peut-être que plus tard, j'emmènerai mes enfants aussi découvrir ça. Et j'aimerais qu'ils gardent ça.
Alors, vous allez au lycée de Kahani. Est-ce que vous pouvez me décrire ce lycée ? Il est à quelques kilomètres d'ici seulement.
Oui. Bon, le lycée de Kahani, il est assez connu pour la violence et tout. Moi, personnellement, je n'ai jamais assisté aux violences. C'est-à-dire que je n'ai jamais été là au moment des faits où ils se bagarraient. J'entends seulement. Des fois, je suis en cours et j'entends et tout. Quand il y a la bagarre dehors, par exemple, il y en a, ils nous enferment dans la salle. Bon. Peut-être que vous allez trouver que c'est un peu abusé ou je sais pas, mais franchement, je trouve que c'est bien parce que bah, ils nous protègent déjà. Mais après, la violence, moi, je dirais, c'est pas que le lycée de Kahani. Je suis sûre que bah, dans les autres établissements, il y a aussi des élèves qui se réveillent en se disant qu'est-ce qui risque de se passer ? Est-ce qu'on va bien rentrer à la maison après ? Donc moi, le plaisir, je le ressens pas forcément en allant à l'école le matin.
C'est quoi vos projets plus tard ?
Alors moi, j'aimerais être sage-femme. J'ai eu l'opportunité de parler à une sage-femme qui m'a expliqué un peu son parcours. Et quand elle m'a dit que je pouvais faire ma première année ici à Mayotte, moi je me suis dit pourquoi pas la commencer ici. Après, bah, je serais obligée de partir pour les 5 ans parce que ici, bah, à Mayotte, il n'y a pas d'école de sage-femme.
C'est quand même un comble qu'il n'y ait pas d'école de sage-femme ici alors qu'on en a besoin.
Vraiment, je trouve ça vraiment très dommage qu'il n'y ait pas. Et surtout, je trouve ça dommage pour les élèves qui sont étrangers, qui n'ont pas de papier, on va dire ça comme ça. Du coup, ils ne peuvent pas partir. Enfin, ils peuvent faire la demande et tout, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Du coup, ça retarde, on va dire ça comme ça, leur projet et tout. Je suis en classe avec eux, je vois qu'ils ont toutes les qualités pour devenir ce qu'ils veulent devenir, mais qu'ils sont en situation bah, irrégulière, ils ne peuvent pas. Moi, j'ai une amie, je connais une fille qui est de Kahani, qui est dans une situation pareil, elle veut devenir médecin. Et moi, je sais qu'elle peut, parce que je suis avec elle, je vois comment elle travaille, je sais qu'elle peut y arriver. Mais du coup, il y a ça qui la freine, on va dire ça comme ça. Vraiment, j'espère vraiment qu'un jour, quelqu'un se réveillera et se dira, bah non, en fait, il faut qu'on pense autrement. Parce que c'est pas normal de négliger quelqu'un juste parce que bah, il est pas maoré, quoi. C'est vraiment un truc que je pense, mais que je le dis pas, quoi. J'écoute les propos autour de moi. Il y en a qui disent, ouais, mais ils sont comme rien, ils sont en joignée, donc ils ont rien à faire ici, donc ils ont pas à réussir ou quoi, ou que ce soit. Mais moi, franchement, je suis pas du tout du même avis, vraiment. Et là, je le pense sincèrement, je suis pas du tout du même avis. C'est pas l'origine qui fait qu'il y en a encore une fois. C'est pas qu'on est en joignée ou comme rien, qu'on peut pas réussir.
Un certain nombre des jeunes que nous avons pu rencontrer se retrouvent dans des classes où leur camarade à côté d'eux n'a pas les mêmes chances parce qu'il n'a pas de papier. C'est une problématique que vous appréhendez, sur laquelle vous essayez de travailler précisément, cette violence administrative qui existe ici pour les enfants.
Alors,
Daisy Brabant.
Je ne sais pas si...
Principal du collège de Dembéni.
Parce qu'après, c'est quand même spécifique à Mayotte, hein, cette violence administrative. Mais est-ce qu'on peut faire différemment ? On le voit bien. On n'est plus en mesure d'accueillir toutes les personnes qui souhaiteraient venir d'Afrique de l'Est, des Comores, etc. Vous voyez bien, dans nos établissements, ça explose. La santé, ça explose. Donc, je pense que... Le travail doit être fait en amont pour éviter d'en arriver là.
Si j'ai demandé à aller au lycée de Kahani, et si peut-être on a refusé que je m'y rende au rectorat, c'est parce qu'il y règne un problème de violence qui n'est pas circonscrit au seul lycée de Kahani. Est-ce que vous avez vous-même ici au collège des problèmes de violence ?
Oui. Alors, on a ce qu'on appelle sur ce territoire les violences intervillages. Donc nous, on est au cœur de cette violence intervillage. Et on a eu des périodes où il a fallu suspendre les cours parce que on ne pouvait plus assurer la sécurité des usagers de cet établissement. On est en permanence sur le qui-vive. Vous voyez, avant les vacances de février, il y a un jeune qui a été tué là, au rond-point, là, quand vous allez repartir, par un autre groupe de jeunes. Et de fait, nous, dans l'établissement... ben vous êtes sur le qui-vive toutes les heures, parce que votre crainte, c'est ben, qu'il y ait un débordement dans l'établissement, un débordement qu'on ne maîtriserait plus, parce qu'avec 1900 élèves, ça peut vite déraper.
Raison pour laquelle tout le monde est équipé de talkie-walkie ici. Il y a du barbelé autour du collège.
Alors, barbelé, c'est par rapport aux intrusions, aux vols, hein, puisque beaucoup d'établissements ont subi des vols hein, par le passé. Et ben, on a trouvé cette parade avec des barreaux aux fenêtres, hein, même dans nos logements. Hein, sur les baies vitrées, vous avez des grands barreaux qu'on ferme à clé quand on sort, on entre. Voilà, en fait, ça fait partie du paysage, quelque part.
Pourquoi existent-ils ces violences intra-villageoises ?
Alors ici, pour avoir posé la question à des personnels, hein, on a presque l'impression que c'est ancestral. On ne sait pas toujours pourquoi ça démarre. J'ai presque envie d'utiliser ce terme qui est un peu devenu à la mode. Il y a une sorte d'ensauvagement, mais qu'on a utilisé aussi il n'y a pas longtemps à Bobigny, à Marseille. Voilà.
Ensauvagement veut dire qu'il y a une progression, et vous me dites que c'est ancestral ici.
Bon, après, nous on se dit que c'est ancestral dans la mesure où il y avait des bagarres. Mais c'est vrai que quand on analyse un petit peu, ces bagarres, elles étaient plus ou moins contrôlées. Alors que là, ça explose et on ne sait pas toujours. Et ceux qui font partie de ces groupes sont de plus en plus jeunes. Hein. Nous, on a quand même des élèves de 5e qui étaient dans ce groupe à avoir causé la mort d'un jeune lycéen. Quoi. Donc,
Vous faites souvent appel à la police ?
On est obligé. On travaille main dans la main.
Garde à vous. J'entends. Nos anciens ont conquis ce lettre de noblesse.
On ne marche pas qu'à danser, direction droite devant. C'est Parachanta, haut et fort, en avant.
Régiment du service militaire adapté de Mayotte à Combani.
1, 2,
on entend de Mayotte, au Saint-Régiment. Souviens-toi de ce nom de fille, la tête haute.
Colonel Benjamin Soubra. Est-ce que on peut revenir sur l'histoire du RSMA qui est né il y a bien longtemps et bien loin de Mayotte ? C'est quoi l'objet ?
Alors en fait, pour faire simple, le service militaire adapté est né dans les Antilles, dans les années 60. Tout a commencé en Martinique. La jeunesse martiniquaise s'était soulevée. Et à l'époque, le commandant supérieur des forces armées aux Antilles se nommait le général Nemo. Et le premier ministre de l'époque, qui était Michel Debré, et qui donc était réunionnais d'origine, a mandaté le général Nemo aux Antilles en lui disant « Trouvez-moi une solution ». Et de par son expérience dans la contre-insurrection en Algérie, le général Nemo avait trouvé une solution pour occuper la jeunesse en lui apprenant un métier. Et donc du coup, il a reproduit la même chose aux Antilles. Et l'exemple le plus flagrant, c'est en Guyane. Le régiment du service militaire adapté du Guyane, de l'époque, qui n'était pas encore un régiment, mais a fait venir des cadres métropolitains avec des qualifications, vous savez, dans les travaux, dans les voiries, avec des machines. Et donc, en fait, ils ont recruté des jeunes Guyanais localement et ils les ont formés sur ces machines. Et grâce à ces machines, ils ont construit la route entre Cayenne et le Grand Ouest guyanais. Donc ça, c'est un exemple frappant d'utilisation de la jeunesse pour la former à des métiers utiles sur le territoire.
Qu'est-ce qui le rend pertinent aujourd'hui dans une île comme Mayotte où la jeunesse est décriée, vilipendée pour sa violence, pour son non-respect des règles. Enfin, en tous les cas, c'est ce que les bacocos, les vieux, nous disent ici.
Alors, moi, je pense que la particularité du service militaire adapté, quel que soit sur le territoire ultramarin, elle réside en fait dans la particularité militaire. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, quelle que soit l'unité du service militaire adapté que vous allez visiter, nous ne sommes ni plus ni moins qu'un centre de formation professionnelle. La seule différence avec les autres, c'est qu'on a un encadrement militaire, on a une tenue militaire et on respecte les règlements militaires. Et donc, en fait, vous devez former et travailler avec vos jeunes, les connaître dans leur intimité, parce que vous savez que peut-être demain, vous allez périr avec eux. Et ça, c'est ancré dans notre ADN de militaire. Il y a une sorte de paternité naturelle qui se crée. Et c'est ce qui est, je pense, la clé de la réussite du service militaire adapté, parce qu'en fait, on sait très bien qu'on n'ira pas au combat avec nos jeunes, de même, puisqu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais on les encadre quand même avec la même énergie, la même motivation. Et donc, en fait, on leur donne, et en leur donnant, ils nous rendent.
Êtes-vous ? Coude à coude à droite, alignement.
Alors, vous parlez d'intime, vous parlez de la nécessité de bien les connaître. Alors, qui sont-ils, ces jeunes ?
Moi, je pense que la jeunesse mahoraise, elle est comme toutes les jeunesses en métropole, ou comme toutes les jeunesses dans le temps. c'est qu'en fait, elle a besoin d'être encadrée. Et en fait, les jeunes ici, quand ils arrivent, on leur donne des règles. Comment s'habiller, comment se comporter, comment se laver, comment manger, comment apprendre, comment respecter son chef, comment respecter des horaires, comment respecter une tenue. Donc toutes ces règles qu'on leur donne, ils adhèrent de suite. Parce qu'en fait, c'est plus simple pour eux. Et malheureusement, on a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas passer la porte, soit parce que je n'ai pas assez de place, ou soit parce que tout simplement, ils ne sont pas français. Et donc cette jeunesse, elle est laissée libre dehors. Et donc en fait, eh bien, elle crée ses propres règles, d'où ces systèmes de bandes qui sont très hiérarchisés, d'où ces systèmes de bandes qui s'occupent à tenir des territoires, à combattre pour des territoires, à combattre pour survivre. Et donc la partie de la jeunesse qui vient chez nous au RSMA, elle a la chance en fait d'apprendre autre chose et de faire un autre combat pour un autre territoire qui est le territoire français.
Étant entendu que le phénomène des bandes ne touche pas seulement les étrangers, mais l'ensemble des jeunes habitants de Mayotte,
exactement,
qu'ils soient comoriens, malgaches,
exactement,
ou français.
La nationalité n'a rien à voir avec les bandes. Vous appartenez à un quartier. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel village de... Vous entendez à mon accent que je suis du sud de la France, mais vous allez dans n'importe quel village du sud de la France, si vous appartenez pas au village, vous êtes foutu hein, quand vous allez dans le village d'à côté. Donc en fait, c'est une question de survie de la jeunesse, où qu'elle soit. Et en fait, elle se reproduit aujourd'hui à Mayotte avec de la violence, parce qu'au final, c'est leur seul mode d'expression.
Fixe ! Repos. Bon, là, on va faire une revue de partage. C'est bon pour tout le monde ?
Première classe.
Du coup, le revue de partage, c'est tout ce qui est affaires militaires qu'on vous a donné. Vous allez les faire descendre. Chacun va en préparer sa musette. Bien sûr, mettre ceinturon, veste de combat, treillis, chemisette, gilet de corps. C'est bon ?
Première classe.
Et aussi les chapeaux de brousse et les gourdes aussi. Et les duvets et les ponchos. Tout ce qui est hygiénique, ça, c'est pas grave, mais bon.
Les brosses de cirage et les bottes de cirage aussi.
C'est bon pour tout le monde ?
Monsieur, première place !
Allez, pour l'ensemble, garde-vous ! Rampez les rangs !
Marchons !
Allez, dépêchez, vous avez 5 minutes.
Mayotte a connu une série d'évolutions législatives, juridiques, administratives, sociales et éducatives.
Alison Morano.
Sur un laps de temps très court.
Anthropologue à Mayotte.
Et il est vrai qu'on assiste aussi à l'introduction de nouveaux éducateurs dans la vie des enfants. L'enfant avait été l'enfant du village, l'enfant du groupe, traditionnellement.
Société communautaire.
Oui, on se partageait l'éducation dans le village. L'enfant pouvait être corrigé par le voisin, la tante, et c'était normal. Et il n'allait surtout pas s'en plaindre à ses parents, parce qu'il aurait été d'autant plus corrigé qu'il avait fait une bêtise à l'extérieur. Donc on avait vraiment ce sentiment de « je suis élevé par tous les adultes qui m'entourent, et je dois craindre mon aîné parce qu'il peut me réprimander, je dois avoir un bon comportement ». Le fait qu'on ait eu cette introduction du droit commun, cette avancée un peu précipitée vers la départementalisation, le fait que l'école ait pris une place de plus en plus importante dans la vie des familles, les tribunaux, la protection de l'enfance, les travailleurs sociaux, tout ça est arrivé vraiment très très rapidement à partir des années 90, 2000, tout s'est accéléré. Et effectivement, les familles se sont senties un peu dépossédées de leurs prérogatives éducatives, dans le sens où ils n'étaient plus les seuls éducateurs, ils n'étaient plus les seuls à élever leurs enfants. Il y a l'école avec... avec ces modèles métropolitains qui se sont appliqués, avec cette image de l'enfant vulnérable, l'enfant à protéger, l'enfant qu'il ne faut pas maltraiter, évidemment. Et puis, l'école est venue mettre dans la tête des enfants aussi qu'ils avaient des droits. Ces droits des enfants, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont eu du mal à être assimilés, appréhendés par la population mahoraise, parce qu'ils sont venus brusquement. Et donc, il y a eu une période où les enfants se plaignaient des châtiments corporels qu'ils pouvaient avoir à la maison. Et donc, l'école s'en est saisie, les tribunaux s'en sont saisis. Il y a eu des histoires un peu phares, un peu mythiques aujourd'hui, qui font dire à la population, si je frappe mon enfant, je vais aller en prison, c'est l'enfant du juge, qu'il n'a qu'à s'en occuper. Je schématise. Et donc, il y a eu un peu ce sentiment de lâcher prise sur l'éducation de l'enfant et de dire, voilà, il y a l'État qui est là. L'État veut s'en occuper, qu'il s'en occupe. Et donc, on a parlé de ces enfants du juge.
Et dans le contexte actuel de violence perpétrée par une partie de la jeunesse, il y a cette idée selon laquelle, c'est le laxisme qui nous donne ça.
Absolument. Il y a cette idée que la justice des mineurs est laxiste. Parce que la justice des mineurs privilégie les mesures éducatives aux mesures coercitives dans un premier temps. Un mineur qui se fait attraper pour la première fois ne va pas en prison. Il va y avoir des mesures qui vont être mises en place pour essayer de le réinsérer, de lui permettre de corriger cet écart. Et donc, aux yeux de la population de Mayotte, la justice est laxiste. La justice ne punit pas. Et il y a même ce sentiment de se dire « laissez-nous faire ». Parce que nous, quand on punissait nos enfants, ça marchait mieux. Aujourd'hui, l'État s'en occupe et on a cette montée de violence.
Avec des milices villageoises qui se font justice eux-mêmes, jusqu'à brûler deux enfants à Chiconi il y a quelques mois.
Effectivement, il y a des groupes villageois qui se constituent pour se faire justice eux-mêmes, avec des actions violentes et parfois extrêmes. Mais il y a aussi, je pense que c'est important de le préciser, des comités citoyens et villageois, des collectifs avec des gilets jaunes qui se mettent dans des endroits un peu stratégiques des quartiers et des villages pour assurer la sécurité des riverains. Et ça marche. Et ça marche plutôt bien. Parce que ce sont les adultes du village.
Fuck la France, fuck Mayotte, négro, c'est un putain d'attentat. Je vais tout exploser, négro, son tir à l'arbre. Si t'fagne un bandit, mais ouais, c'est l'IA qui a marre. T'es comme le H dans ma oreille, négro, on t'attend pas. Fondi Waro, pédophile. Moi, la dame d'Amenian, on est à l'île. Vous êtes dirigé par des chiens. Campagne et Zomta, moi j'ai plus aucun espoir.
Moi, mon ressenti, je suis un peu, comment dirais-je, je suis un peu très déçu de la manière comment ma chère France, en fait, voit les choses, surtout dans ce petit bout du monde. Il n'y a pas vraiment
Delzide,
un développement avec, j'ai envie de dire, les Maorés.
Directeur de la culture et du patrimoine de la ville de Chiconi.
Au lieu de trouver un juste milieu, d'accompagner les parents, de trouver une alternative, ben on a dit non, on ne touche pas aux enfants, c'est sacré. Mais quand tu dis ça à un enfant et que c'est sacré, on ne touche pas, quel résultat vous attendez? Il ne peut pas y avoir un autre résultat que le résultat, ce qu'on a aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui?
Eh bien, les enfants qui sont devenus, j'ai envie de dire, nos propres bourreaux, nous les parents, et que la législation abonde en ce sens. C'est quand même hallucinant, c'est le monde à l'envers. Là. Et qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a certains gauchistes qui ne veulent pas entendre le mot immigration. Mais moi, je vais le dire haut et fort. Le vrai cancer de Mayotte qui empêche son développement, c'est la surpopulation. Mais elle vient d'où? De l'immigration clandestine. C'est aussi simple que ça. On pourrait construire des écoles sur tout le territoire de Mayotte, il n'y en aura jamais assez. Et il y en a plein qui font semblant de dire « ouais, tout, c'est humain, machin ». Mais moi, tous ces gens-là, moi, je leur dis quoi? J'aimerais bien que vous les preniez, vous les logez, vous les nourrissez, vous les vêtir, vous les éduquez chez vous. Je ne vous demande pas 10 000 ans, une semaine. Donc, et après une semaine, on fait le compte.
Donc en fait, tout ce dont ils ont besoin et tout ce dont ils manquent.
C'est ça, exactement. Donc...
J'ai bien eu, là. Où est-ce qu'on se trouve, là, précisément?
Alors, là, on se trouve dans notre studio. C'est un outil que la mairie met à disposition de sa jeunesse qui œuvre dans le milieu musical.
Est-ce qu'un jeune rappeur de Chiconi qui n'aurait pas de papier ou la nationalité française, il peut quand même venir jouer et répéter ici?
C'est la plupart du temps ceux qui viennent ici. C'est aussi simple que ça. Ben, tu vois, regarde derrière là. C'est des jeunes marginaux. Au lieu d'aller sur la route, ben, je leur ai dit, vous pouvez vous mettre là. Mais quand vous êtes là, je ne vais pas voir le boucan. Et ce lieu, ce n'est pas un lieu où on va dealer, c'est un lieu où vous allez faire votre truc, le soir, la journée, ce que vous voulez, vous rentrez chez vous et vous laissez propre. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Parce que j'ai laissé ces jeunes-là, là. Parce que si je leur ai dit vous dégagez, ils dégagent tout de suite.
Mais quand vous êtes un laxiste.
Non, je ne suis pas un laxiste, je suis un réaliste. Et je leur dis, dégagez, ils vont aller où? Ils vont aller sur la route. En fait, j'ai déplacé le problème ailleurs. Mais bon.
Aujourd'hui, je dénonce leur négativité. Aujourd'hui, je dénonce car tout cela a assez duré. Well, je dénonce, on en a assez. Well, yeah. Nous, on veut évoluer. Je dénonce. Well, yeah. Aujourd'hui, je dénonce. Dénonce yeah. Je dénonce. Well, yeah. Aujourd'hui, je dénonce.
Yes, bonjour, moi c'est Yoni. Yoni S. Je suis originaire de Chikoni. J'ai 27 ans.
Alors, Yoni S ou Yoni Ragaman Faya?
Yoni S. Ici, tout le monde m'appelle Yoni. Le S, ça vient d'un groupe que j'avais quand j'étais plus jeune. Mix, il y avait des filles et des garçons. Et du coup, nous, on s'appelait les squatteurs. Du coup, nous... On squattait là où il y a des événements, des fêtes ou des anniversaires. Ben nous, on s'incruste pour aller s'amuser. C'est-à-dire qu'on prenait des petits tambours, des boîtes de conserve. Il y en a qui tapaient, il y en a qui chantaient. On chantait en kibushi. C'est notre langue maternelle ici. Et donc, c'était, on reprenait les musiques que faisaient nos anciens à l'époque.
Ok.
Ouais. Et puis, en 2016-17, j'ai sorti mon premier réalisation, clip vidéo. Et je ne sais pas par qui ou comment, mais ma mère est tombée sur cette vidéo. J'avais peur, au début, j'avais peur parce que je ne sais pas comment elle allait le prendre. Mes sœurs m'ont juste dit que « Ah, il y a maman qui a vu telle chose, t'es attendu à la maison. » Mais arrivé là-bas, ben... Elle a dit, ah ben c'est incroyable. Où est-ce que tu as appris à faire tout ça?
C'était quoi cette chanson?
C'était du dancehall. On avait réuni tous les jeunes de Chikoni sur la place Sikotram.
Vous pouvez la chanter ce dancehall?
Ça date, hein, c'est Raga Dance Matungali Zemtsetsen Pare Madaro Mukai Disekai Totale. Ma mère m'a dit, fils arrête bêtisa, chaque marin toujours mon affiki en anokori, katsioni, katsibeni, katsi toujours, sazao, shongaskoni, shongaskoni, hey, en anokor, kor, ma isha mané agori, femme le falcol, col, toujours madarou, tekero tsimeti vol, toujours groupounel, l'étalé, faut jamais nous tester.
Et ça dit quoi?
C'est des groupes de jeunes qui foutent le trouble dans la commune.
Donc c'était presque une provocation.
Oui. Sur la musique, on dit que voilà, tous les jours, c'est les mêmes discours. Pense à ton avenir, fais ceci, cela. Et nous, on a des choses qu'on aimerait faire aussi. Pas forcément ce que vous nous dites, mais c'est d'autres choses. Du coup, quand les gens, ils ont commencé à voir ça, ben, beaucoup de personnes ont parlé. C'est qui ces jeunes? Ah oui, ces jeunes, ils sont capables de faire ça. Wow.
C'est des libérateurs pour la commune.
Oui, surtout pour la jeunesse.
Et vous, la musique, c'est votre grand-père, hein, je crois, qui vous a fait baigner dedans.
Oui, pour moi, oui, c'est mon grand-père, du côté de ma mère. Mais la musique qu'il pratiquait, c'est le daïra. C'est une musique assez rythmée et religieuse. C'est-à-dire que c'était plus... Il y a les femmes qui le font, il y a aussi les hommes. Mais mon grand-père, lui, il était le fundi, c'est-à-dire qu'il apprenait à la fois aux femmes et aux hommes aussi. Et lui, il avait un nom, on l'appelait le Sheoumen. Et il mettait tout le temps une sorte de cape rouge. Et du coup, men, ça veut dire rouge. Donc le fundi au cape rouge, le cher men. Du coup, lui, il m'amenait depuis que j'ai 7 ans, 8 ans, le soir. C'est-à-dire qu'on partait de Chikoni, on allait au village voisin. On partait à 18h pour commencer le daïra là-bas à minuit. Et on dansait, on chantait. Jusqu'à 7h du matin.
Et vous pouvez là chanter du daïra?
Alors, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait, mais je vais essayer. C'est en arabe, donc ça fait Aloha yo aloha edo aloha edo jala som aloha edo jala somado. Et là, il y a quelqu'un qui tape les mains. Aloha edo jala somado aloha edo jala somado jala somado jala somado. Et là, on est tous en cercle, c'est-à-dire qu'on se tient la main. Et les personnes qui chantent, ils sont au milieu. Une chanson du daïra, ça peut aller jusqu'à 10 minutes. Donc on fait une, après on enchaîne une autre, ainsi de suite, jusqu'à...
Et pour rentrer dans une espèce de transe.
Voilà. Et donc on fait ça jusqu'à l'aube.
قد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين صدق الله العلي العظيم.
شكرا. Allez, bismillah, mashallah.
Je suis responsable de ce madrasala à Kanibé. Je suis également enseignant. J'enseigne des CP, je veux dire. Et voilà, donc sinon je suis père de 4 enfants. Et puis je suis imam aussi à la mosquée le vendredi.
Lalas, imam à Kanibé, ça va?
Ouais, on rajoute le mot fundi Lalas, parce que okay. Fundi aussi c'est maître Lalas. Okay. Parce que sinon Lalas tout court comme ça, ça n'a pas assez d'impact. Okay. Vraiment, pour marquer les choses, Fundi Lalas.
Fundi Lalas, comment vous voyez la jeunesse mahoraise évoluer?
Malheureusement, on va de pire en pire. Je vois des jeunes de plus en plus qui délaissent leur culture, des jeunes de plus en plus désœuvrés, des jeunes qui... En fait, qui n'ont même pas de limites, ces jeunes-là. Et à notre époque, il y a des choses qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. Et un exemple, il y en a pléthore. Hein. Un exemple, par exemple, le fait de hausser la voix. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas se permettre de le faire. Rien que, par exemple, le fait de parler avec une fille dehors comme ça, au vu de tout le monde. Ça, on ne pouvait pas le faire. Pour parler aux filles, il fallait vraiment se cacher. Ou vraiment, il fallait la retrouver à l'école. Et nous, on essaie quand même d'expliquer aux jeunes, de le ramener dans le droit chemin.
Cette jeunesse mahoraise, elle est aussi victime d'une situation où le taux de chômage est très important, les perspectives d'avenir sont assez bouchées.
Oui, tout à fait, parce qu'il faut savoir aussi qu'on n'a pas assez vraiment de perspectives pour ces jeunesses-là. Après, une fois ils ont fini le bac, il n'y a pas assez d'universités à Mayotte, vous voyez. Et beaucoup de ces jeunes-là n'ont pas aussi de papiers, il faut le dire aussi, qui font que ils se trouvent restés ici à Mokolatra à Mayotte. On ne peut pas non plus les embaucher, ils ont manque d'expérience, manque d'études, manque de tout. Qui fait que, oui, malheureusement, on voit que ces jeunes-là n'ont pas beaucoup de perspectives. Moi, par exemple, c'est ça que j'essaie quand même d'ouvrir, de les accueillir. On fait des petites structures. Nous, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est voilà, créer comme des écoles coraniques comme ça, parce qu'ils ont besoin de qui parler. Mais ils ont besoin aussi qu'on leur dise qu'il y a espoir. Mais on est impuissant. Hein. On ne peut rien faire à notre niveau. Et malheureusement, les politiques non plus, c'est très limité quand même. Ils essaient de faire, mais ça tarde vraiment.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter?
Peut-être dire à toute responsable que cette jeunesse-là, c'est d'abord nos enfants, c'est nos frères. Et si ces jeunesses-là assombraient dans la délinquance, il y a forcément une raison quelque part. Et faisons tous l'effort d'aider à notre niveau. Vous voyez, chacun à sa manière, chacun à son niveau, chacun à ses façons. Mais sinon, ça retourne contre nous, et c'est ce qui se passe maintenant, ça retourne contre nous. Ce n'est pas de leur propre gré, ces enfants-là. Ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Donc, si chacun d'entre nous se sentait concerné, on aurait gagné beaucoup de choses. En tout cas, on aurait changé beaucoup de choses.
Fête de l'Aïd au village de Chikoni.
Comment tu t'appelles ?
Hein ?
Comment tu t'appelles ?
Antaoui.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Assalamu alaikum. Là, il y a le majlisi.
Ça veut dire quoi ?
On décide de le courant sans garder sur...
Le texte par cœur, quoi ?
Oui, par cœur.
Et c'est un concours ?
Non, c'est pas un concours.
Mais c'est tous les enfants du village qui ont appris le Coran toute l'année et pour le jour de l'Aïd, on vient le réciter, c'est ça ?
Oui, c'est vrai.
Tu sais quelle sourate tu vas réciter, toi ?
Sourate An-Nazat.
Ça parle de quoi ?
Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Ça veut dire de la fin du monde.
Mais tu l'as apprise par cœur.
Oui.
Quel âge as-tu ?
J'ai 12 ans.
Et tu vas une fois, deux fois, combien de fois par semaine à la madrasa ?
Tous les jours. Mais il y a des fois, quand je suis en retard, je n'y vais pas. Parce que arrivé là-bas, on nous tapote un peu. Avec les fouets.
C'est pas trop dur ?
Non, c'est pas trop dur. Je panique un peu, je stresse un peu. Parce qu'il y a des gens, quand ils te voient, fait que des fois, tu rigoles. Ou... C'est ça qui traumatise les gens. C'est pour ça que là, je suis stressée.
Mashallah, barakallah fik. Takbir.
Je crois que c'est moi.
Madame, t'as rien à l'ostaz.
Je te souhaite bon courage.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara.
Vous aimez l'école coranique ?
Quand j'étais petit, j'ai très aimé, mais maintenant j'ai grandi et je vois les petits jeunes là, ils vont à l'école coranique. Je passe direct quand je t'ai pété. Bah, j'aimais trop aller à l'école coranique quand ma mère me suis dit hey, vas-y, lève-toi, tu vois l'école coranique. J'ai couru pour ne pas être en retard.
Oui, parce que sinon, c'était un coup de chicote.
Zengwe. C'est pour ça que j'ai quitté l'école.
Le zengwe, c'est.
Ça peut être une branche, ça peut être un fil, n'importe.
Ça vous plaisait, vous, l'école coranique ?
Oui. Car on rencontrait des gens, surtout des filles.
Ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un qui te soutient à ce point, qui veut que tu réussisses plus que toi-même en fait.
Madima Rimaïza, lycéenne, 17 ans.
C'est vrai qu'on n'est pas dans une relation officielle, mais vraiment, quand je vois qu'à chaque fois que j'ai été dans le besoin, il a été là pour moi, il me soutient dans tout, vraiment, moi je me dis, je ne me verrais pas revivre tout ça avec quelqu'un d'autre, quoi. Vous diriez peut-être que je suis trop jeune pour penser ça, mais vraiment, c'est lui, quoi.
Vous l'avez présenté à vos parents ?
Non, pas du tout. Alors là, dans la société mahoraise, vraiment présenter son copain à sa mère, c'est vraiment très très compliqué.
Et à son père ?
Les deux, surtout le papa. Parce qu'encore, la maman, elle pourrait être un peu... vous comprendre. Mais vraiment, c'est très, très compliqué. Moi, mes parents, ils sont sur ce sujet, c'est vraiment... Non, tu fais tes études d'abord. Les garçons, ça vient après, quoi. Donc, aller dire ça à mes parents, c'est vraiment compliqué. J'ai même pas envie d'y penser pour l'instant.
Vous avez peur qu'on vous impose un mari ?
Oui, très, très peur. Moi, vraiment, c'est un truc que je supporterai pas. Je me dis... Si j'échoue, bon, je ne me le souhaite pas, mais si j'échoue, vraiment, ça sera ça, en fait. Ça sera, on m'amènera à quelqu'un. Voilà, tu te maries, vu que tu as échoué ta vie. Voilà, tu te maries et voilà, tu deviens une femme au foyer, comme on dit. Je crois que ma détermination de vouloir réussir, elle vient surtout de là, quoi. Je préfère finir seule qu'on m'impose quelqu'un, quoi.
Elle avait choqué. Disait bien, va louver. Coupé, ça n'a pas volé. Ok, là, mon bébé. Oh, oh, oh.
Qu'est-ce que vous voudriez chanter là maintenant?
Malika. Malika, c'est un morceau où l'histoire, c'est J'aime Malika, entre Malika on s'aime, mais notre entourage est contre. Donc ça donne... Et combat sti anjo kranga tika titskuranga nolti kuranga tika mangatonga rumbu ya divatika ei kil mangatumbu ya divatika maita tika rundo midal fiti afkono chambela zambu ya di matanga marantengi matunga alkila mala miseno zambu mei zambu havi yo malika Kwanga tika fan fat ki delika ai mama no fat chokuka baba no yujo fam halaza ai.
Elle existe Malika?
Ouais, avant, mais c'est pas au nom de Malika, c'était le nom d'une autre jeune fille, c'était l'amour du jeune âge. Et donc voilà, on s'entendait hyper bien. Et puis voilà, il y a eu des on-dit, etc., qui ont fait que les parents ne m'ont plus apprécié. Et donc, ils ont dit direct que vous deux, vous arrêtez de vous voir. Et puis, on s'est séparés. Mais sur la chanson...
C'est un moment difficile que vous avez vécu.
Oui, oui, parce que c'est quelque chose qui a duré, auquel, voilà, on voyait déjà loin, on avait déjà des projets. Mais voilà, c'est... Quand la famille ne veut pas ici, parfois c'est hyper compliqué parce que surtout chez la fille doit absolument suivre l'éducation de ses parents, de sa mère. Il y a une façon de s'habiller, c'est interdit pour les filles de traîner avec des garçons. Tout ce qui est bisous, câlins, etc., c'est interdit. Jusqu'à même la majorité ici, 18 ans, c'est pas vraiment pris en compte. C'était l'enfant, donc tu restes enfant jusqu'à ce que tu te maries.
Quand je composais ça, j'imaginais une maman qui parlait à sa fille de ne pas s'habiller n'importe comment avec ses mini-jupes. Donc sa maman qui lui dit « Tu es magnifique, ma fille. » Surtout quand tu mets ton salouva, tu sais, les habits traditionnels, au lieu de mettre une mini-jupe avec ton string qui font descendre les joues par derrière. Donc il y a un peu d'humour là-dessus. Et le refrain, la maman qui dit « Mon enfant ne me fait pas mal au cœur. »« Mon enfant ne me fait pas mal au cœur. » J'aimerais bien que toutes mes proches, quand ils te voient sur la route, marcher comme ça, tu es ma fierté, quoi.
Vanwa we muzuri waitia saluva rahane silipo ya shukiza ya masavu Vanwa we muzuri waitia saluva rahane silipo ya shukiza ya masavu.
C'était Mayotte, dernier des départements, deuxième épisode, une jeunesse abandonnée. Un documentaire de Raphaël Kraft réalisé par David Jakuboviez. Avec Abou Chiabi, Alison Morano, Merguez, Kalachnikov, Sans âme, Zaïdou, Saïd Nidouam, Madi Marie Maïssa, Daisy Brabant, Colonel Benjamin Soubra, Delzid, Yoni S, Fundi Lalas et Antawi. Musiques originales Abou Chiabi, mixage Antoine Viossa, chargé de programme Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Emmanuel Laurentin.